I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de The Liar Princess and the Blind Prince. Allez, l'accent anglais, je fais des efforts. Attention,
est-ce que j'y arrive aujourd'hui?
Ils sont tellement au taquet partout.
Suspense,
attention.
Kingdom Hearts.
Voilà.
3. Ouais,
très bien.
3. 3. 3.
San.
Et enfin, Life is Strange 2, épisode 2. Voilà pour le programme. Et puis, évidemment, le com des com, la chronique jeu de société. Et puis, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Hédio. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour, Corentin.
Salut, Erwan.
Et nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir Kevin Sicurel. As known as Moguri.
Exactement. Salut Erwan. Salut.
Bonjour Kevin.
Bonjour. Ravi d'être ici. Merci beaucoup pour l'invite.
Kevin, où est-ce qu'on te trouve? On te trouve évidemment sur ton canapé, Cozy
c'est
Corner.
Ça. Exactement, Cozy Corner. Ouais.
Avec Mehdi, Alès Blaise hein, sur Twitch. Et sur Patreon. Voilà,
oui,
parce que vous avez des
sous,
tout ça. Non, c'est formidable. c'est la première fois que tu viens.
Ouais, c'est la première fois. Ouais.
On s'est déjà croisés, époque No Life.
Une époque.
Dans les locaux, mais tout ça. Mais tu n'en avais pas eu l'occasion, tout ça. Et c'en est une parce que. Quoi, parce que tu es l'expert mondialement reconnu. Hein, voilà,
ça semble se dessiner comme ça.
C'est toi qui as écrit la page Wikipédia de Kingdom Hearts.
Presque.
Ouais, presque. Donc tu vas nous en parler, ça va être formidable. On gagne en street cred quand même hein, sur le
clairement.
Sujet.
Clairement. Bon, ouais. On va opposer nos deux points de vue. Je pense que ça va être intéressant de voir nos points de vue et nos expériences.
Puis nous, on ira prendre un café.
Kingdom Hearts.
mais on commence avec toi, Patrick. Avec, ouais. J'ai noté sur ma feuille conf Google, mais il faut que tu m'en dises plus.
Ah oui, alors j'avais plusieurs news ce matin. Donc, je vais peut-être commencer par l'espace permanent dédié aux jeux vidéo qui vient d'ouvrir la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Mm-hmm. Ça fait un moment qu'ils sont chauds sur le jeu vidéo, ces gens-là. Hein. Il faut se rappeler qu'ils abritent tous les ans la remise des Ping Awards. Il y a eu des masterclass assez anthologiques chez eux avec du People, du Tim Schafer, des gens de très haut niveau qui venaient parler de jeux vidéo. Et puis là, il y a eu aussi d'autres... Il y a eu des événements ponctuels sur le jeu vidéo qui s'inscrivait sur une durée limitée, et ben là non, on a un espace qui va être là pour toujours dédié aux jeux vidéo. Je suis passé le voir il y a quelques jours et j'étais vraiment ravi de l'installation. C'est classe, c'est sobre, c'est moderne. Et il y a un petit côté rétro, il y a 2-3 bornes, moi qui m'ont, il y a un petit Gauntlet 2 qui est jouable. Voilà, pour dire qu'on sent que c'est tout le jeu vidéo qui va se retrouver. Il y a l'ambition vraiment de réunir, comme toujours à la Cité des Sciences, hein, les plus jeunes et puis aussi les moins jeunes.
Il y a de l'espace
Il y a de l'espace, oui, il y a tout un circuit qu'on peut faire avec. Donc là, concrètement, là, il y a une première itération de cet espace qui va être amené à évoluer, évidemment, avec le temps. Donc il y a du jeu, jouable. Concrètement, on arrive. Il y a du Forza Horizon 4, il y a du Cuphead, il y a du Just Cause 4. Donc c'est intéressant, il y a du jeu gamer qui est présent.
D'où Just Cause 4?
Oui, je sais pas pourquoi. Ça ressemble un peu à un catalogue Noël l'année dernière. Un peu.
Non, ce qui est intéressant...
Ça ressemble à du Random Pick surtout. Hein.
Mais justement, moi je trouve que c'est intéressant de ne pas mettre que des jeux politiquement correct, d'ouvrir aussi les portes à des jeux qui sont moins... Et surtout, c'est les installations qu'il faut voir. Les installations sur du... on en a déjà parlé, hein, Just Cause. Moi, je veux bien qu'on en reparle, mais moi, je...
Tu vois, si c'est une expo permanente, je pense qu'il va...
Et ça va bouger, va bouger. Ce qui compte, c'est qu'on a donc des espaces ludiques, c'est du jeu, on vient jouer. Il y a des très beaux environnements. Il y a notamment deux espaces avec des écrans 360 très larges, qui sont vraiment impressionnants. Et ça, quand on voit ça tourner, on a une vision. Il y a justement justement Forza Horizon avec les écrans comme ça, on a une vision panoramique, c'est ouf.
Ouais, ça doit être bien.
Déjà que Forza Horizon, c'est déjà une tuerie. Mais c'est alors là, quand on le voit tourner, enfin c'est monstrueux. Il y a ça, donc il va y avoir une approche scientifique. Ça c'est aussi toujours le propre de l'endroit. Donc là, moi ce que j'ai vu, ce sont des chercheurs qui étaient là et qui nous expliquaient qu'il va y avoir aussi une veille sur les statistiques des joueurs, comment les joueurs réagissent au jeu. Il y a vraiment tout un aspect comme ça de recherche sur les comportements de jeu. Je pense que ça va être vraiment intéressant de reparler avec ces gens-là dans quelques temps, quand ils auront ramassé des données sur la façon de jouer. Il y avait des gens avec des casques qui captaient les signaux.
Ça me formait, là. Tout le monde se fait chier sur Just Cause 4.
Il n'y a pas que Just Cause.
Ça veut dire
qu'il y avait Gauntlet 2 aussi.
Je ne sais pas comment on dit, mais il y a des chercheurs qui sont affiliés
ça c'est aussi la force de l'endroit, hein, c'est de réunir comme ça des savoir-faire. En tout cas, voilà, c'est le début et il y a vraiment une promesse. Encore une fois, je trouve que l'endroit est classe, épuré. Il y a un petit côté tronesque, je trouve, dans le look. Moi qui m'a plu, je trouve que c'est.
Il y a des lignes au sol.
Et Cali, vraiment. Enfin, on voit que l'installation est jolie, qu'il y a des très belles choses à faire.
Cela dit, ils ont l'habitude, c'est pas la première fois qu'ils
font ça. Bien sûr, c'est ce que je disais, ils sont habitués aux jeux vidéo. On sent que c'est aussi leur rôle. Et moi, je renvoie cet article de Tilt dans les années 80 qui avait fait tout un photo-reportage sur l'ouverture de l'endroit et qui, justement, annonçait que le jeu vidéo aurait sûrement sa place plus tard. On est en 2019, et on y est plus que jamais.
Il n'y a pas un article
sur GameCult.
C'est possible, oui, j'en ai un peu parlé. C'était un grand plaisir. Mais parce que Tilt, c'est la base de tout, voilà, quand on bosse dans le jeu vidéo. Et puis, j'ai pu interviewer des personnalités de l'époque. Donc
on conseille, évidemment, sur GameCult Premium.
Merci pour l'autopromo.
Certains longs papiers de Patrick Helio, en tout cas, et puis d'autres. Hein, parce que
j'ai coupé ce que j'aurais pu faire plus longtemps.
Je n'en doute pas un seul instant.
J'enchaîne donc après le e-lab jeu vidéo, news. Oui, évidemment, on a juste. Je retrouve mes papiers. On a juste une date, le 19 mars, Google qui annonce faire une conférence à San Francisco, donc en marge de la GDC. On sait que ça va parler jeux vidéo, c'est quasiment confirmé. Donc ça y est.
Tu vas à la GDC pour pas parler de jeux vidéo.
Mais c'est en marge, hein, c'est-à-dire qu'ils sont. Mais bon, on sait depuis longtemps que ça couve. On sait qu'il y a surtout un mercato. D'ailleurs, GameCult a fait une news qui rappelle un petit peu le mercato de personnalités du jeu vidéo, Phil Harrison, enfin des pointures qui sont dans l'industrie depuis 20-30 ans, qui bossent là-bas. On sait qu'il se prépare des choses et là on va en savoir plus. Donc 19 mars,
Histoire de streaming, non ? Ils veulent pas faire ça.
Ah oui, je les vois. À mon avis, je les vois pas lancer du hardware. Je pense qu'ils vont avoir des solutions.
Project Stream, qu'ils ont fait avec Assassin's
Creed. Exactement, avec Ubisoft. Je pense que c'était un prémisse. On sent que ça va avancer.
Je vous rappelle
là-dessus.
Que ça va pas marcher. Hein.
Je sais, Erwan. On sait, Erwan.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas de doute sur la puissance de feu de ces gens-là pour prendre le temps. Ils ont surtout un chéquier qui leur permet de faire venir des gens.
C'est cheaté quand même.
Le vrai problème de Google.
C'est cheaté, ouais, c'est un peu ça. Et là, clairement, on va se lancer dans une guerre des exclus. Enfin, entre les plateformes, les Epic, les Steam, ce genre de
ne prenons pas trop les devants. On ne sait pas encore.
On verra. En tout cas, date à noter. Et puis, je finis sur une moins bonne note, un peu triste. On l'a vu venir, parce que la PS Vita, j'avais parlé de la fin annoncée de la production de cartouches PS Vita. On a su qu'elle était écartée de la formule PlayStation Plus, donc on ne peut pas dire que c'était forcément de très bon augure pour la suite. Et puis, là, on a confirmation que Sony va arrêter la production du hardware de PS Vita.
7 ans, belle vie quand même.
J'avais noté, je crois qu'on a 16 millions d'exemplaires, ça paraît beaucoup, mais en soi, c'est pas bon, c'est pas une réussite, malheureusement.
Surtout comparé à la 3DS, quoi.
Et je pense, attention, cette bécane-là, si vous la voyez passer en occasion, à un prix, sautez dessus. Je pense que c'est une machine qui va rester.
Elle est bien.
On l'a vu, quand elle a été pas mal critique au lancement. Dans le milieu du jeu vidéo, elle a acquis une vraie patine culte. C'est une machine qui est très respectée, Je pense qu'elle restera, avec le temps, elle va rester comme un appareil, une machine qui a vraiment, malheureusement, qui n'a pas eu la ludothèque qu'elle aurait dû avoir. Elle a une finition, notamment les premières séries avec l'écran OLED.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique. Bon, je pense qu'elle est arrivée au mauvais moment, peut-être trop tôt, peut-être trop tard, j'en sais rien. Malheureusement, c'est une fin de vie.
Je trouve que c'est un peu de la faute de Sony qui n'a pas suffisamment apporté de l'eau au moulin d'Avita.
Oui, il y avait la PS3 aussi. Elle est arrivée, je pense, à un moment un peu compliqué.
Un peu la Switch 0.5. Hein.
C'est ça. Il y avait.
Concernant l'indé, la Switch a récupéré une place des indés en portable.
Elle a souffert comme la Wii U d'un positionnement pas très. Et puis, c'était aussi la crise de la console portable à l'époque, tout ça.
Oui, mais regarde, Nintendo, ils ont eu le même problème avec la 3DS. Ils ont fait OK, on baisse le prix, on met un Mario Kart et ouf, ça a marché.
Ils ont vite réagi. Bon, après.
Sony n'a jamais eu ce move-là, c'est dommage.
En tout cas.
Alors que leur console est super, quoi.
Moralité, si vous la trouvez pas trop chère, et surtout les cartouches sautées dessus, enfin voilà, les jeux, je pense que ça commence à disparaître des étals, donc ne tardez pas trop si vous voulez avoir une PS Vita.
Corentin.
Oui, Respawn qui a sorti Apex il y a quelques temps, on en a parlé la semaine dernière. Comme leur jeu a énormément de succès, 25 millions de personnes sur la première semaine, il y a bien quelques tricheurs dans le lot, on va dire, c'était obligatoire. Donc il y a un CM de Respawn qui s'est pointé sur le subreddit d'Apex et qui a dit oui, on s'en occupe, on a quand même déjà jarté 16 000 personnes en quoi, deux semaines de jeu.
Ça veut dire qu'il y avait déjà des gens qui utilisaient des hacks, en fait, genre des murs invisibles.
J'imagine, des trucs comme ça. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne exactement dans les faits, mais vu que c'est du source, j'imagine que la techno est déjà plus ou moins explorée, défrichée. Oui, il y a des chances.
Des gens qui passent par le code réseau.
Genre de choses qui peuvent permettre de faire apparaître à l'écran où sont les gens et tout ça. D'autant qu'il y a les features dans le jeu. Certains personnages peuvent en effet voir les gens à travers les murs, ce genre de choses. Donc ça se trouve, c'est facile à hacker ce genre de choses. Enfin, c'est facile, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a déjà des outils qui sont prêts à être mis en place. Alors le truc, c'est que pour l'instant, Respawn n'a pas d'outils en ligne pour report les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut sortir du jeu, aller sur une page, aller donner l'ID de la personne. C'est-à-dire que quand t'es dans ton jeu, que t'es vénère, tu dois noter le nom du mec. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Du coup, ils encouragent quand même les gens à signaler s'ils voient des comportements étranges. Et évidemment, ils disent on va faire ce qu'on peut. Mais là, pour l'instant, on cherche surtout à mettre en place des patchs qui visent à améliorer la stabilité du jeu. Donc, peut-être qu'on aura encore cette page de reporting, dénonciation.
On se souvient bien que notamment dans PUBG, ça a pourri l'expérience
du
jeu.
Je pense que si Fortnite a aussi bien marché à ce moment précis au début là, c'est aussi parce que PUBG n'a pas su réagir assez vite. Donc c'est quand même un enjeu très très important. Ouais. Bon, après je pense pas qu'on sera dans le même cas de PUBG où vraiment c'était ridicule. Enfin, il y avait des voitures qui volaient, c'était n'importe quoi.
Sachant que reste quand même la question, c'est quoi l'intérêt de tricher. Je suis face à une interrogation, mais limite ontologique. C'est quoi?
Là, c'est une question.
Non, mais pourquoi tu fais un battle royale où t'as un but.
Enfin,
je veux dire, si t'arrives numéro 1 en ayant tiré au hasard parce que t'as un programme qui fait que les balles sont auto-guidées vers les gens.
C'est des jeux qui mettent tellement en avant les performances des joueurs au début de chaque partie d'Apex. Tu vois le nombre de kills, le nombre de fois au top 1. Et tout ça, peut donner envie d'avoir des belles stats. Je vois ce que tu veux dire. Ça nie un petit peu le principe même du jeu à la base, mais dans un écosystème où on met vachement en avant les performances individuelles de chacun, je pense que ça peut encourager.
Puis quand t'as 16 ans, quand t'as 16 ans, je t'ai bien eu.
You've got a point.
Sinon, il y a deux suites de gros hits indépendants qui ont été annoncés cette semaine. Ça a été une grosse semaine en termes d'annonces. Donc d'abord, Hollow Knight Silksong. Alors, on s'attendait plutôt à un DLC. Finalement, c'est un jeu entier qui va sortir, ce qui est plutôt cool. Alors, on va incarner Hornet, qui est une princesse. Je ne sais pas trop quel genre d'insecte c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle elle génère de la soie, donc elle se sert de sa soie pour mettre des coups de fouet et tout. C'est plutôt cool. Et elle a un système de combat un peu moins rustique, un peu plus souple, un peu plus acrobatique que l'autre personnage de Hollow Knight. Nouveaux ennemis, de nouvelles armes évidemment, une map a priori complètement nouvelle. Il y a un trailer qui est sorti, on peut voir, il y a plein de belles animations, c'est comme dans le premier Hollow Knight, mais là j'ai encore l'impression que c'est encore plus de cachet, encore plus de caractère. Et je dis ça parce qu'en plus moi à titre personnel j'ai pas trop kiffé Hollow Knight, je me suis arrêté un peu au milieu, il m'a un petit peu ennuyé, mais il n'empêche. Non, mais il m'a un peu ennuyé personnellement, mais après, ça arrive.
Il y avait de la concurrence aussi.
Ouais, il y avait de la concurrence. Vrai. Mais c'est vrai que j'ai préféré des Axiom Verge ou des trucs comme ça.
Moi, j'avais attaqué en tant que Dead Cells, et je me rappelle, je faisais les deux.
Ah oui,
C'est vrai, tu t'es obligé. Malheureusement, t'es dans des configurations.
Après, c'est pas non plus le même type de jeu.
Non,
Dead
mais
Cells
bon.
Et Hollow Knight, Quoi qu'il en soit, oui, on comprend pourquoi ils sortent un tel jeu. Hollow Knight, c'est quand même au moins, alors c'était, je crois, l'année dernière, ils avaient annoncé 1,5 million de jeux vendus. Pour un jeu indépendant, c'est vraiment beaucoup. Et bonne nouvelle pour ceux qui l'ont kickstarté à l'époque de 2014, ils l'auront gratos. Voilà, c'est un beau geste. Il y a aussi Darkest Dungeon 2 qui a été annoncé, qui a le bon goût, lui, de mettre un 2 derrière son nom et pas de mettre un truc à la con parce qu'après on sait plus où on en est. Darkest Dungeon, on connaît, c'est le RPG, roguelike, je sais pas trop comment on pourrait le décrire. RPG, au tour par tour.
Old school, un peu radeux.
Dungeon crawler, à l'ambiance très sombre.
facile.
Hashtag santé mentale.
Alors, si avant, on descendait dans des, si avant on descendait dans des donjons, là on va grimper une montagne, manoir, a priori. Les développeurs ont annoncé qu'ils voulaient un petit peu recréer une sensation de voyage exténuant vers un but. Moi j'aime bien ce genre de...
Ah, le côté exténuant, on l'avait déjà. Hein, mais...
Oui, bien sûr.
Ça me crispe. Il me crispe à un point. Cette santé mentale, là, ça me...
Tu baisses les yeux devant un jeu comme ça. C'est vrai, tu baisses les yeux.
Exactement.
C'est ça, mais t'aimes ça en plus. C'est ça le pire. Enfin, bon, bref. Mais il est fascinant, ce jeu.
Et Red Hook,
Red Hook, donc, qui avait sorti Darkest Dungeon en 2016, a aussi fait un très beau coup, puisque en 2017, ils avaient annoncé en avoir vendu 2 millions.
Yeah.
Et donc, ils vont pouvoir augmenter leur masse salariale. Ils étaient 5 sur le premier Darkest Dungeon. Et là, dans 6 mois, je crois, ils espèrent être 20 dans leur studio. Donc, ils ont quadruplé leur masse salariale, ce qui est cool. Donc, on devrait avoir un Darkest Dungeon 2 particulièrement riche. En tout cas, on l'espère.
Formidable, merci chers amis. Le com des coms de la semaine dernière. Et il y a des commentaires, parce que je commençais à m'inquiéter un petit peu, parce que quand, franchement, les dernières semaines, c'était un peu...
Mais bon.
On va commencer par Fiv avec « Je n'ai vraiment pas compris l'engouement autour des Battle Royale jusqu'à Apex. PUBG me semblait trop hardcore et le design Fortnite me rebutait. Et là, c'est la révélation. Tout est fluide, ça bouge, les gunfights sont vraiment grisants. Et j'y retourne alors que merde. » Qu'est-ce que je suis nul.
Pareil.
Je crois que je suis addict. Jérémy Israël. Alors, Jérémy Israël.
Pas content, lui.
pas content. Alors, est-ce que je hurle sur les lettres au cap? Non. Solène me regarde avec... Non, hurle pas, c'est pas la peine. Tu parles déjà assez fort. J'étais un énorme fan d'Advance Wars. J'ai joué à tous les clones publiés depuis et Wargroove m'apparaissait donc comme une évidence. Sauf que non. En cap.
Ouais, je...
À peine j'avais lancé le jeu que je me suis rendu compte de l'arnaque. Encore des graphistes sous Amiga, merde. Deux fois.
Comment ?
Ah non, mais. Alors, c'est drôle.
S'il te plaît, bouge-toi les oreilles, Patrick. D'accord ?
Ouais,
merci.
Attention, hein.
Merci, mon Dieu, je suis daltonien, ça aurait pu être pire. L'Advance Wars de 2001 sur GBA était plus détaillé, plus fin et plus beau. Pourquoi se limiter à des pavés de pixels en 2019 avec de grosses hachures clignotantes pour highlighter les zones ? C'est tout bonnement insupportable, crasseux et moche. Là, tu vois, j'aime
alors,
bien.
Mais
quand est-ce qu'on parle d'Amiga, là ?
En lisant le commentaire, je suis quand même allé comparer les sprites, justement, de Advance Wars 1 et de Wargroove. Non, je suis pas d'accord. C'est des sprites beaucoup plus détaillés sur Wargroove.
Oui, mais alors, là, tu as oublié la composante essentielle, c'est les sprites, les sprites de nostalgie.
Oui, c'est ceux dont on se souvient, bien sûr.
Les sprites de nostalgie sont toujours plus fins.
Oui, je suis d'accord. Les polygones aussi, ça marche aussi avec les polygones.
Voilà, c'est ça. Et puis tous ces personnages qui sautillent frénétiquement au secours. Non, pardon, ils ne sautillent pas puisque leurs pieds restent collés. Ils se secouent frénétiquement. Poubelle. Si Advance Wars vous manque, essayez plutôt. Alors, c'est un conseil de Jérémy. Hein. Essayez plutôt un Lost Frontier, ce qui n'est pas un Game of the Year, mais il est dispo sur mobile et ça ne coûte que quelques euros.
Par ailleurs, on connaît sur Wargroove, il y a une mise à jour qui va être arrivée. Il y a pas mal des défauts que j'avais abordés la semaine dernière, notamment le fait qu'on ne puisse pas sauvegarder en milieu de partie, ou le fait que les icônes soient un peu illisibles. Ça va être corrigé. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle, ils suivent le jeu et ça fait plaisir.
Voilà, c'est le message de Cytoplasme aussi était assez critique envers Wargroove et effectivement, notamment sur ces manques de features de sauvegarde et ce que tu avais aussi pointé qui étaient les cartes beaucoup trop grandes.
Immense, trop grandes ces cartes.
Et
c'est
ce qui fait des scénarios finalement trop longs et qui.
Ah, mais
qui
on dit ce qu'on veut, mais on ne touche pas l'Amiga ici. dès la première émission en 2007, on ne touche pas l'Amiga.
Donc Patrick, attends,
Jérémy,
chez vous.
Jérémy, maintenant il va être contre. Contrarier toute l'émission.
Ah oui. Il va nous sortir un jeu de plateau mieux que Wargroove.
On va commencer avec le programme de jeux vidéo et on va te laisser parler, Corentin, sur The Liar Princess and the Blind Prince. Nippon Ishii Software, c'est Disgaea, c'est ça ? Non, c'est pas
Disgaea, oui, je crois que c'est eux. Hein.
Ouais. Vous allez avoir d'autres problèmes si vous dites Kingdom Hearts,
c'est Disgaea.
Ah ouais, vous allez avoir d'autres problèmes.
Ah, merci, corrige-moi tout de suite.
Alerte.
Disgaea.
D'accord.
This Guy, ouais, et c'est Nippon Nichi Software. Ouais, c'est bien.
Ah, ça,
c'est
bien.
Tu peux dire Nice.
Nice,
si
ouais.
Nice, c'est bien. Ouais. Bon, d'accord, Nice. Ouais, alors, ok, bon, bah, ils ont fait d'autres jeux avant, quoi.
Ouais, c'est grave.
C'est ça. Bon. J'ai la fermée, en fait. J'ai pas dire les noms des trucs, j'ai dire le oui, machin, le truc.
C'est ça, ouais. Des,
ouais.
Alors, le truc des détours pour le pays du soleil, le vent, ce genre d'astuces.
Cet éditeur japonais.
Cet éditeur de l'archipel.
Ce pays entre tradition et modernité.
Exactement. Ah oui.
Corentin.
Oui, en fait, c'est un peu. Enfin, c'est pas si rare, mais c'est rare qu'il y ait des jeux dont je sais qu'ils vont pas être terribles, mais ouais, que j'y vais quand même parce ouais, que ça
oh,
m'intrigue.
Ça, nous a, oui,
ça m'intrigue. Ça. Oui, mais souvent, notamment venant de Nippon Ichi Software ou de ce genre d'éditeur-là, quand je vois un jeu, je me doute des fois, je fais bon, là, ça a l'air mignon, ça a l'air super cool, mais j'ai lu les critiques, j'ai lu les choses parce que le jeu est sorti il y a 6 mois au Japon, qu'il a essayé pris des mauvais retours. Voilà, on est dans un jeu comme ça où je voulais voir de mes propres yeux ce qui allait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'allais un peu en terrain inconnu en sachant que j'allais un petit peu avoir des choses à dire sur ce
The Liar Princess. En reportage, en fait.
The Blind Prince. Ouais. Mais voilà, j'étais curieux parce que c'est vrai que ce petit jeu-là que j'avais vu passer, parce qu'il est sorti il y a plusieurs mois au Japon, avait un style tout à fait particulier. Un style, on va dire, un petit peu comme des lithographies dans un conte pour enfants. Un style très. Avec des couleurs un peu ocre. Pas beaucoup de couleurs d'ailleurs, beaucoup de noir, de ton brun et tout ça. Avec un style très justement illustration de livre pour enfants, ce qui me plaisait bien a priori. Alors il faut savoir que ce jeu-là, il est issu d'un concours interne de Nice qu'ils font chaque année, où voilà, ils proposent des concepts de jeux et c'est celui-là qui a gagné. Alors je ne sais plus en quelle année, ça devait être en 2017 ou en 2016, parce qu'il faut quand même le temps de le développer. Et du coup, c'est un web designer de leur crew qui a sorti ce jeu-là. Donc il s'agit d'un puzzle platformer assez classique, c'est-à-dire que c'est pas sur les phases de plateforme qu'on va s'amuser, mais plutôt sur la façon dont on va trouver un moyen d'avancer dans les différents niveaux que propose ce jeu. Ça raconte l'histoire d'une louve plutôt, enfin on sait pas trop en fait, on s'en fiche, qui aime bien chanter la nuit, et un prince aime bien s'aventurer en forêt parce qu'il entend cette jolie voix et décide d'écouter cette jolie voix de loup qui chante bien la nuit, sauf qu'au moment où il veut s'approcher du loup, le loup prend peur, lui met un coup de griffe, le rend aveugle. De retour au château, la famille royale a honte du prince, décide de l'enfermer parce qu'il n'est plus présentable. Oui, la famille royale sympa, double peine pour ce pauvre prince.
C'est bienveillant tout ça.
Ouais, mais le loup il est triste parce qu'il se dit mince, ce prince qui venait écouter tous les jours... je m'en veux un peu de l'avoir aveuglé quand même. Du coup, il va voir une sorcière qui lui donne la possibilité de se transformer en princesse, et il décide d'aller voir le prince pour l'emmener voir la sorcière et se soigner les yeux.
Eh bah, ben écoute, je trouve ce pitch pas mal.
Bah oui, il est bien ce
moi,
pitch.
Je trouve bien. Enfin, c'est un setup qui est prometteur en tout cas.
Je suis entièrement d'accord avec toi, le pitch est très prometteur, en plus l'ambiance est très bien mise en scène, il y a une narratrice qui raconte l'histoire, on n'entend jamais les personnages parler, c'est toujours la narratrice qui prend la voix un petit peu du personnage qui parle exactement comme pour un conte pour enfants. Tout ça est très bien, le design du jeu est très joli, les décors sont détaillés, on a un chara-design adorable, mais quand je dis adorable, c'est vraiment adorable, le chara-design du loup transformé en princesse, c'est pas une jolie princesse élégante, elle a des dents pointues, elle a les cheveux en bataille, elle est pieds nus, enfin moi j'adore, elle est trop rigolote la princesse, parce que tu sens qu'elle a envie de faire la bagarre, tu vois ce que je veux dire.
J'ai pas envie d'entendre ton mais. Non mais je sens qu'il arrive.
De toute façon je l'ai écrit dans le programme, j'ai dit le jeu est mignon et c'est tout quoi.
C'est là où il va prendre son accent en général, non?
Mais tu vois, mon cher...
Je sens que ça va pas tarder, attention, je surveille.
Non mais j'avais pas envie, on arrête là.
Non mais on va, oui mais c'est vrai.
J'ai envie qu'il soit bien ce jeu.
D'autant que pendant tout le jeu et les, je crois qu'il y a 5 mondes à peu près, 5 environnements malheureusement un peu trop similaires, on va avoir différentes étapes avec entre le prince et la princesse qui ment au prince, qui lui dit je suis une princesse, je ne suis pas le loup qui t'a aveuglé, viens je vais t'emmener, on va chez la sorcière, on va te soigner. Très bien. Mais du coup la princesse va tout faire pour ne pas révéler que c'est le loup et donc de faire peur au prince, c'est tout un enjeu puisque c'est la princesse qui ment face au prince aveugle.
Bon bah merci.
Voilà, on va s'arrêter là. Et donc, sur ce plot-là, la princesse, elle, son but, ça va être d'emmener le prince avec lui, parce que le prince est complètement inutile, il ne peut rien faire, il est aveugle, donc il va falloir prendre par la main le prince. Donc les jeux, on doit prendre par la main des personnages qui servent à rien, ça, on connaît, on a Ico notamment, on peut y penser. Là, c'est un peu la même chose, on doit vraiment emmener notre prince, donc on doit maintenir une touche. Et ce qui est assez cool, c'est que même visuellement, les deux personnages sont un peu tristes quand ils ne tiennent pas la main, et quand ils tiennent la main, ils sourient tous les deux. Enfin, tu vois, voilà, c'est des petites choses qui sont comme ça qui font chaud au cœur. Donc on l'emmène, si on le prend par la main et qu'on avance, il avance avec nous. Si on saute, il saute avec nous. Par contre, le prince est très fragile, donc dès qu'il y a un ennemi devant nous, il faut lâcher la main du prince, se transformer en loup, donner trois coups au monstre en face, reprendre la main, se retransformer en princesse, emmener le prince. Ça pendant 6 heures. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a plein de petites énigmes à résoudre, des boutons, laisser le prince sur un interrupteur pour activer une plateforme mouvante, aller activer un levier un peu plus loin pour créer un passage pour le prince, protéger le prince pendant qu'il se déplace tout seul sur une plateforme, ce genre de choses. Le prince, au bout d'un moment, peut commencer à lui donner des ordres, lui dire « va là-bas, va marcher là-bas, s'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles là-bas et moi je vais faire un autre truc pendant ce temps-là. Attraper ce bloc et dépose-le un peu plus loin, on peut commencer à lui donner des ordres. Le loup a peur du feu aussi, notamment, donc le prince va tenir la lanterne, ce qui va nous permettre, notamment dans les niveaux sombres, d'y voir plus clair. Donc tout ça est très joli. Le problème, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment... Enfin, j'ai vu des jeux de Game Jam mieux level designer que ça, quoi. Et vraiment, on est dans un manque d'inspiration level design qui, parfois, confine vraiment à l'amateurisme. Et c'est vraiment dommage. Y a des moments où on voit le même pattern se répéter. Typiquement, le chemin qui va en bas, le chemin qui va en haut, bah, la princesse, elle peut sauter plus haut en forme de loup. Donc, le prince doit aller en bas et toi, tu dois aller en haut. Tu le vois tout le temps. C'est vraiment des gimmicks de de level design que tu vois se répéter.
L'antithèse d'un Céleste ou d'un Mario, où chaque niveau est différent, où il y a une idée de level design, où il y a un truc comme voilà, ça. Et là, il y a trois idées de level design qui sont répétées à l'infini.
Ou en fait, là où un bon jeu de plateforme va faire proposition A, proposition B, proposition AB, puis ensuite proposition C, proposition ABC, proposition D, proposition ABCD, puis etc. Puis après, on oublie A et tout ça. Et du coup, ça se mélange, ça se mêle, ça se décline. Ici, on a vraiment quelque chose qui s'additionne et qui parfois n'est pas intéressant, du coup, puisque il n'y a pas vraiment de découverte. C'est souvent quand même des blocs sur des interrupteurs, c'est de la protection de PNJ. Alors de temps en temps, on nous met des nouveautés. On sent quand même qu'il y a cette école du un monde, une idée, mais c'est pas suffisant et c'est pas des idées suffisamment novatrices pour que on soit vraiment ébloui. Et surtout, le jeu manque de diversité dans ces environnements. Donc je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toujours en forêt, toujours dans des grottes, toujours dans des... Voilà, les musiques sont sympas, mais les boucles sont un peu courtes. On en a un peu plein la tête des jolies musiques qu'on a entendues. C'est vrai qu'elles sont jolies, les musiques. D'ailleurs, tout est plutôt bien fini en termes de direction artistique. Mais c'est surtout tout ce qui est jeu. On sent le moteur derrière. On peut presque voir les calques du moteur utilisé. Il y a des moments où on tombe dans des trous.
Je savais qu'on aurait dû arrêter.
Ouais. Il y a des petits manques de finition un peu bébêtes. Il y a des moments où on tombe dans des trous et donc il y a un filtre noir qui borde le niveau, mais il y a des moments où ils ont oublié un spot. Enfin, ils ont littéralement oublié un spot de noir. Donc il y a un morceau de blanc une fois que t'es dans le noir. Tu vois, c'est pas fini. Des jeux de game jam ont ce genre de défaut là et c'est vraiment très dommage.
C'est très Nipponichicore. Ouais. Hein, comme tu décris. comme ça, c'est vraiment c'est un jeu assez joli avec un design. Une proposition sympa, mais qui tient pas trop la route derrière, quoi.
C'est surtout la distance, en fait. J'ai l'impression
que c'est la distance.
Ouais, ils tiennent vraiment pas la distance. C'est genre les 20 premières minutes, t'es content, et puis après,
même pas. Ouais, même pas. Parce que dès le premier monde, tu vois les limites du level design, tu vois que ça va, enfin, tu vois que ça tourne déjà en rond au début. Alors, tu laisses le bénéfice du doute. Oui, il n'y a pas encore beaucoup d'idées, enfin, il n'y a pas encore de possibilités de game design au début, parce qu'on te donne des capacités au fur et à mesure. Puis même, il y a des incohérences. Genre, le prince, au début, il faut lui tenir la main pour lui donner des ordres. Et puis, à un moment donné, à partir de maintenant, vous pouvez lui donner des ordres à distance. Ben avant, il pouvait pas, il était sourd, le prince. Je croyais qu'il était aveugle. C'est terrible, cette histoire. Tu vois, c'est dommage. Il y a quelque chose qui... Il y a un acte manqué dans The Liar Princess and the Blind Prince. C'est pas honteux, mais ça vaut pas les 20 euros qu'on nous demande pour ce jeu-là. Mmh. C'est un peu court aussi, ça dure 4 heures.
Sur Switch. Voilà.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. Après, c'est le genre de jeu.
Le 4 heures est peut-être le truc qui.
Ouais, alors pour moi, il m'a duré.
Si tu t'amuses pas pendant 4 heures, c'est.
Bah, tu passes pas un mauvais moment. Il n'y a rien de honteux. Mais franchement, il y a plein d'autres choses à jouer, surtout dans le puzzle platformer qui est quand même un genre ultra concurrentiel dans la scène indé.
Sur Amiga, je crois. J'essaie de remettre de bonne humeur.
Merci. Il appréciera l'ami Amiga.
Donc.
c'est vrai, bah oui.
Attendez, et c'est sur Switch et PS4, ouais. Donc peut-être attendez une solde si vraiment le design vous plaît. C'est vrai que c'est mignon, hein, c'est super mignon. Et alors, ils ont eu le bon goût aussi de vous mettre tous les comment ça s'appelle, tous les travaux préliminaires de dessin,
c'est
et
bien,
tout. Ce qui est le c'est principal.
Oui,
c'est
ce qu'on n'a pas toujours malheureusement, et c'est, ouais. Bah, c'est dommage que ce soit là sur un jeu qui bon.
Oui, bah après là, comme c'est le principal intérêt du jeu. Enfin, ouais. Moi, j'y suis vraiment allé pour le chara design, parce que je trouve vraiment adorable, tout mignon, c'est tout chibi, tout super déformé, tout adorable. Malheureusement, le jeu derrière suit pas et c'est bien dommage. Voilà. Donc je savais pourquoi j'y allais et je n'ai pas été déçu d'une certaine manière.
Tu regardes les artworks.
Voilà.
Comme ça, s'il y a un auditeur ou une auditrice qui joue à ça, c'est aussi en sachant où
voilà. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de jeu derrière. Donc
c'est ça.
Voilà.
C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan, oh là là, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais parlé de décrypto dans cette chronique. On va se rattraper maintenant. Quand on voit cette boîte blanche illustrée comme un tableau de bord de sous-marin, on se dit tout de suite, mais c'est quoi ce jeu? Et puis quand on commence à lire les règles, on se dit aussi, oui mais pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça? Enfin les règles sont extrêmement simples, mais il y a un petit moment de flottement comme ça. Et c'est bien là le seul problème de décrypto, j'ai dû expliquer les règles 5 ou 6 fois et ça tilte pas. Ça demande quelques minutes pour que les choses s'emboîtent comme ça dans le cerveau. Et m'emmerdez pas, hein, je suis toujours super clair, vous devriez le savoir. Et puis il me reste qu'une minute 30 dans ma chronique là, comment je vais faire? Bon, être auditeur de Silence on joue, ce sont des droits mais aussi des devoirs. Je me lance, concentrez-vous bien. On sépare les joueurs en deux équipes dans la lignée de Codenames, on peut être un nombre impair, on peut être plein, ça marche très bien. Chaque équipe reçoit un panneau sur lequel sont inscrits 4 mots tirés au hasard, numérotés de 1 à 4. Et puis reçoit une feuille structurée comme un tableau Excel sur laquelle on pourra noter tous les indices et tout ce qui se dira pendant le jeu. Puis un des joueurs de chaque équipe va tirer une carte. C'est marrant d'ailleurs, ce sont des petites cartes en forme de floppy, des disquettes 5 pouces 1 quart, mais restez concentrés. Sur chacune de ces cartes sont inscrits 3 chiffres, donc 3 de ces 4 mots placés dans le désordre. Genre 4, 1, 2, 3, 1, 4, etc., etc. Et c'est là que les méninges vont chauffer. Il va devoir trouver 3 mots à écrire sur sa fiche qui vont permettre à sa propre équipe de deviner l'ordre des 3 chiffres. Évidemment, il peut pas dire n'importe quoi parce que même si son équipe a tous les mots devant les yeux, elle devra avant l'équipe adverse deviner l'ordre des chiffres. Et si elle se plante 2 fois, elle perd la partie. Attention parce que ces 3 mots ainsi que l'ordre des chiffres est ensuite dévoilé à l'équipe adverse. Et c'est là qu'on comprend que le jeu est super méga intelligent. Tour après tour, on va noter les listes de mots associés à chaque chiffre, et sans même connaître le mot original inscrit sur le panneau de l'adversaire, on va commencer à faire des rapprochements et deviner l'ordre des 3 chiffres qui sont inscrits sur la carte d'en face. Si votre équipe arrive à deviner 2 fois les chiffres de l'adversaire, vous gagnez la partie. Et voilà. Et si vous pensez que j'ai bien expliqué, vous pouvez toujours me faire un petit mot sympa sur le forum. Décrypto est un jeu extraordinaire. Plus on joue, plus on se rend compte à quel point c'est intelligent et subtil. Il a même un petit truc comme ça qui fait qu'on n'a pas envie de mélanger les équipes entre les parties pour pouvoir creuser, continuer à creuser. L'auteur, Thomas Dagenel, L'Espérance a eu un éclair de génie. Décrypto est édité chez le Scorpion Masqué pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 12 ans. Et moi, même si c'est un jeu de 2018 hein, qui est pas si vieux que ça, j'aurais dû vous en parler avant Noël. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui donnent de plus en plus de boulot aux distributeurs, aux importateurs, aux exportateurs, aux transmorteurs, aux boutiques. Bye bye.
Bye bye, Jérémy. Alors, je suis à deux doigts d'avoir compris, mais pas.
t'es pas loin, tu te rapproches.
Je suis pas loin, mais aidé par le nom aussi des cryptos, donc tu sens que c'est un truc de crypto.
De crypto-monnaie.
Et bravo à lui, parce qu'on sent qu'il
non,
donne
pas
tout
de Bitcoin,
pour.
Non, pas...
non, mais c'est vrai, il s'applique pour. Je la réécouterai, je pense.
Mais
il y a un truc.
Taf, tu, vois, hein. tu comprends qu'il
beaucoup
faut de découvrir des séquences de chiffres.
Et merci à lui, en tout cas.
Ah oui, non, mais encore merci, Jérémy.
Et ça donne envie de jouer, donc c'est vrai que c'est le principal.
C'est ça. Allez, on va se jeter à corps perdu dans... c'est marrant, tu disais sur Darkest Dungeon qu'ils ont eu la bonne idée de s'appeler 2 quand c'était 2.
Mais là, oui, c'est vrai.
ça sonnait comme une attaque directe. Moi,
ouais,
je pensais pas du tout comme ça.
J'ai bien vu que tu n'avais pas fait le lien toi-même.
Je pensais à Hollow Knight.
Mais donc là, nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Kingdom Hearts 3 et qui est en fait le 12. Ou le 13, ou le 11, enfin personne ne sait très très bien.
Ah si, Kevin, il sait.
Même quand on sait, c'est difficile de compter précisément.
Donc c'est Kingdom Hearts 3.
Hey, Sora.
Oh, Jack Sparrow.
Captain Jack Sparrow. Make way!
Rapunzel, I'm not afraid to face them.
Oh no!
Kingdom Hearts 3, on parle hein, des fois qu'on aime bien quand un jeu vidéo a un univers cohérent. Oui. Sais. Genre, tu vois, il propose un lore, il propose un univers, il propose un... Là, non. Là, il y a tous les univers. Il y a la moitié des univers de fiction du XXe siècle qui se retrouvent dans un seul truc. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que, donc, je le répète, hein, Kevin, tu es mon spécialiste mondialement reconnu. Alors, je conseille parce qu'on m'en a déjà parlé, c'est déjà rentré dans la légende, cet épisode du Cozy Corner où tu passes une heure et demie à rappeler le lore de Kingdom Hearts.
À rappeler le scénar, vraiment littéralement ce qui s'est passé depuis le 1 jusqu'à avant le 3. J'ai fait ça juste avant la sortie du 3.
D'accord. Respect.
Je m'étais fixé.
un défi, quoi.
Je connais un autre Kevin, c'est peut-être un truc de Kevin, un certain Kevin Bitterlin qui s'est imposé.
T'avais des notes
oui,
ou t'es
j'avais
parti
des... ouais, j'avais tout écrit.
T'avais un tableau entier.
Impossible de s'en souvenir. J'avais un tableau de détective avec des fils dans
tous les sens. Des fils rouges,
sur un tableau en liège.
Alors lui, il est là, mais il est mort parce que lui, il l'a fait en moi.
C'est ça.
Et donc voilà, on en parle parce que Kingdom Hearts 3, on peut se dire ouais, non mais c'est bon, je me rappelle, j'ai joué au 2 un peu, j'avais vu des vidéos du 1,
il y a
donc
17
c'est bon.
Ans,
et sauf qu'en fait, après, on regarde la liste des jeux, mais c'est pas comme, tu vois, il y a certains jeux où il y a les jeux canoniques,
la série régulière,
des sortes de petits spin-off, de trucs qui vont à côté, et tout ça. Là, non. Là, c'est en dehors des numéros principaux aussi, tout est important. C'est la même histoire.
Ouais, puis t'as les virgules.
Le gros problème, c'est ça, c'est que tout est canon dans Kingdom Hearts.
C'est ça que j'avais pas compris.
Du jeu régulier du Kingdom Hearts 1, 2, 3 jusqu'au dernier jeu mobile qui paraît complètement accessoire, mais qui est en fait très important dans l'histoire générale.
Et du coup, le 3, c'est un peu le goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout digéré pour l'aborder sereinement.
Le 3 fait référence directe et utilise de manière très importante dans son scénario. Ça vaut ce que ça vaut, mais tout de même, il utilise absolument tous les épisodes de la série sortie jusqu'ici. Absolument tous. Ouais. Certains plus rapidement que d'autres, mais... si on n'a pas fait le moindre épisode, on sera perdu sur au moins un point quelque part à un moment donné du jeu. Ouais.
C'est un peu comme MGS4 finalement, je trouve.
Oui, mais avec beaucoup plus de jeux
derrière.
C'est un peu le oui, c'est un peu ça.
Beaucoup plus de plot holes
complètement, c'est ça.
À reboucher. Quoi.
Alors, sans repasser une heure et demie à nous recontextualiser Kingdom Hearts, est-ce que grosso modo de l'extérieur, on a un héros,
oui.
Sora?
Exactement.
Et on a Donald et Dingo.
C'est ça. Alors ça, c'est en fait le point de départ réel de Kingdom Hearts, c'est Sora, Kairi et Riku, qui sont trois enfants paumés sur leur petite île qui s'appelle les îles du destin et qui, bon, c'est très classique, l'appel de l'aventure, un danger qui s'amène, qui s'appelle les sans-cœurs, etc. Sora, il est présenté au début comme l'élu de Lucky Blade, donc cette fameuse... la clépée en français,
même.
On pourrait dire une épée.
La clépée.
Ouais, une épée clé.
C'est bien.
Une clépée.
C'est
je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas traduit en français.
Je croyais que c'était officiel, moi, parce que tu disais tout le temps clépée dans tes podcasts.
Non, moi je dis clépée parce que j'aime bien.
C'est vrai que c'est
joli. Mais c'est pas officiel.
Ah, mais moi, ouais, non, mais ça va le devenir.
J'espère.
Ah, oui, non, quand même. Il faut.
Et en gros, donc, on a cette espèce de trio qui est très classique dans plein de productions et en particulier dans la production japonaise. Sora, Riku, amis rivaux, intérêt amoureux pour Kairi et qui se retrouvent séparés, amis, ennemis, tout ça, c'est très classique. Mais ils se retrouvent séparés au tout début de Kingdom Hearts 1, et c'est là qu'interviennent donc Mickey, mais surtout Donald et Dingo, qui sont les gardes, qui sont respectivement les gardes royaux et magiciens royaux de Mickey, donc, qui est un roi dans cet univers-là, et qui accompagne Sora dans quasiment tous les épisodes de la saga par la suite. Quasiment, pas tous, mais c'est un peu ses compagnons de toujours.
C'est-à-dire qu'on a un héros, Sora, qui est clairement designé Final Fantasy.
C'est ça.
C'est, les vêtements, le truc, avec peut-être les chaussures
Monde Disney.
Il y a une teinte,
ouais, quand même. Il y a une teinte,
c'est ça, on sent
cartoon,
quand même. Oui, on sent effectivement les chaussures, c'est ce qu'on remarque le plus. Il a des pieds immenses. Enfin, il y a un côté... je dévie un tout petit peu, mais c'est une des choses qui est assez admirable, je trouve, dans la série. C'est le fait d'avoir réussi à marier autant d'univers différents en prenant des éléments de design de chacun, de marier un peu tout ça, et que ça soit tout de même l'air de rien assez harmonieux. Et donc effectivement dans Sora, dans le personnage principal qui est entièrement original, donc il y a beaucoup de Final Fantasy, beaucoup de Square entre guillemets, enfin beaucoup de Nomura en réalité, et pas mal, et un petit peu de Disney aussi tout de même.
Et il y a voilà, donc dans ce groupe, hein, dans ce groupe de trois personnages, c'est ça. Mmh. Ils vont le grand jeu, le grand attrait, le grand la grande trouvaille absolument
de la série,
improbable, ouais. Ouais. De la série. Enfin, on en parlait avant l'émission. C'est le en tout cas la légende raconte. Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais que cette idée de Kingdom Hearts serait venue dans un ascenseur, mmh, parce que les locaux de Square au Japon et les locaux de Disney était dans le même bâtiment, ouais, et que grosso modo on se croise, on se recroise. Ah, tiens, si on faisait un jeu ensemble,
ah,
on mélange les lords de ça. Final Fantasy et les lords de Disney, et hop.
Alors, parce que derrière, il y a quand même des enjeux. Enfin, ce sont quand même des. C'est pas des gens qui prêtent facilement leur licence.
Ouais.
Ils sont plutôt hermétiques, pas faciles à décliner. Enfin, les deux se rencontrent, ça tient quand même. Ouais.
Mais c'était peut-être. Enfin, genre. Oui, mais sauf que peut-être que Disney au Japon, c'est une importance moindre, ou j'en sais rien.
Il a été dit à plusieurs reprises, et c'est plus ou moins su que Kingdom Hearts est une galère juridique de tous les instants pour chaque jeu.
C'est validé en triple fois par l'un, ça, par l'autre, ouais, et après par le. Oui,
et ne serait-ce que pour Nomura, ça fait. Donc quand je dis Nomura, c'est le créateur de la série, c'est
la
personne
début,
qui chapeaute cette série depuis le début. Il est de notoriété assez publique qu'il y a des mondes qui voulaient voir, enfin des licences de Disney qu'il voulait voir depuis le début et qu'il n'arrive pas à obtenir. Les mondes Pixar, donc, qui sont disponibles dans Kingdom Hearts 3, ont été une longue lutte. Je crois que depuis le premier épisode, je me demande même s'il n'y a pas des traces d'éléments de Toy Story développés dans le premier épisode, qui était une sorte de proof of concept.
Ah oui.
Mais il n'arrivait pas, c'était juste juridiquement que ça bloquait, où Disney disait non.
Mais il n'empêche qu'ils y sont arrivés, en tout
ils
cas.
Ils ont fini par y arriver.
Alors que Hercule, oui, tout le temps.
Hercule, pas de problème, prenez-le, c'est ça. On vous le donne.
Vous le gardez.
Et vous le gardez, oui, c'est ça. Oui, parce que donc Hercule, c'est le monde un peu récurrent.
Je me suis posé la question, c'est un peu dur de calculer vraiment, enfin on pourrait le faire, mais c'est laborieux. C'est un des mondes qui apparaît le plus souvent dans Kingdom, ouais, Hearts, si ce n'est celui qui apparaît le plus souvent.
Qui n'est pas forcément l'univers Disney auquel on pense en premier.
C'est ça.
Ah, ouais, c'est ça.
C'est vrai. Mais qui est assez pratique pour Kingdom Hearts parce qu'on peut mettre en place des tournois. C'est souvent ce qui est le cas, en fait.
Oh, une arène.
C'est ça, une arène. Ah, ouais. Et donc, ça fait du contenu de fin de jeu très facile.
C'est bien reproduit visuellement. C'est vrai,
ça.
C'est des grottes principalement.
C'est dans le 2.
Non, il y a quand même des belles.
Sinon, la plupart du temps, on voit
les décors dans les.
Mais pour qui n'a jamais joué à un Kingdom Hearts, il faut quand même. Non, mais c'est pas dur. C'est très dur. Impressionnant quand même. Moi, je me souviens de parce que moi, je n'y connaissais rien. Je pense que c'était le 2. Tu vas me détromper si je me qui commençait dans Alice au pays des merveilles.
C'était le 1.
C'était le 1. Ouais. Bah, voilà. Donc j'avais joué au premier et c'était sur PS2. Mm-hmm. Et franchement, c'était quand même un choc parce que c'était très bien modélisé, c'était très généreux, on retrouvait comme ça. Et là, sans surdévoiler ce qu'on trouve, on retrouve le monde de la Reine des Neiges cette fois-ci, ouais, on retrouve le Toy Story, on retrouve Monster Inc,
c'est ça. Ouais.
Même
Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes.
Ouais, ouais,
et à bon, chaque fois,
Ralph, séquence,
en
ouais.
tout cas, je l'ai vu sur YouTube et je suis resté tout le temps. C'est la chanson Let It Go, donc Libéré, Délivré, remis en scène à l'intérieur du jeu. Totalement calé, c'est-à-dire
c'est
à l'identique. J'ai vu une comparaison dessin animé Kingdom Hearts sur YouTube. Il y a une vidéo comme ça qui traîne, mais avec des points de vue parfois différents,
oui,
où on voit Elsa d'un autre point de vue que de la chanson, mais elle fait exactement les mêmes gestes au même moment. Et donc on se dit waouh, quand même le taf est c'est un truc de fou.
Il y a un taf ouais, conséquent, très très conséquent et manifeste. Enfin, je veux dire que comme tu dis, qui se voit, qui saute à la figure. Il y a peut-être quelque chose. On l'a même pas précisé de base, mais le principe, donc en mariant ces univers de Disney, de Final Fantasy, c'est de créer un monde dans lequel il existe plusieurs mondes et qui correspondent chacun à un univers de Disney. Parce qu'il me semble que ça, c'était une des demandes très expresses de Disney, qui était de « on ne mélange pas des films Disney les uns avec les autres ». Cela dit, il me semble que ça a été fait par la suite dans d'autres
Infinity,
jeux. Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais pas dans la narration, c'était de l'atelier où tu pouvais toi créer
Mais c'est ça.
Il n'y avait pas d'histoire qui
vraiment...
Mais il y a
la méchante là qu'on retrouve quand même.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de trame... Donc c'est Maléfique qui est utilisé comme une espèce de de surméchante entre guillemets dans les armées, dans l'organigramme de l'armée, elle est un peu au sommet, c'est ça, même si au-delà il y a au-dessus d'elle aussi je suis pas sûr de ça, mais il me semble que ça faisait partie des demandes de dire on va pas trop mélanger quand même les mondes entre eux, et donc chaque monde est censé être hermétique, et c'est même justifié dans le scénario. Normalement, les mondes ne sont pas au courant de l'existence d'autres mondes. Donc, en fait, on va voyager, en incarnant ce fameux Sora, d'un monde à l'autre, et donc d'un univers littéralement différent à l'autre. Et c'est comme ça que Kingdom Hearts arrive à être l'air de rien cohérent, parce que si chaque monde prenant même complètement les traits du film qui va vouloir représenter, ou de l'univers, donc c'est-à-dire que Toy Story, on va avoir une apparence de jouet, Sora va avoir une apparence de jouet, sous l'eau, il n'est pas dans Kingdom Hearts 3, mais on a pu aller dans le monde de la petite sirène, donc on va être une espèce de sirène pareil, avec un corps de poisson, etc. etc. Ça reste cohérent dans l'univers.
Relativement.
C'est ça. Et ça marche plutôt bien. Et il y a beaucoup, comme tu disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en particulier dans le 3, ça se voit beaucoup, pour retranscrire ça efficacement à l'écran.
Avec des séquences de gameplay différentes, avec des variations dans le gameplay. Ouais. On est quand même sur une structure, évidemment, de JRPG.
Action RPG. C'est vrai que moi, j'avais décroché. Je fais une petite parenthèse. C'est vrai que j'avais fait le premier à l'époque, parce que c'était un monument. En 2002, on est au pic de la PS2. Chaque jeu qui sort de Square, on jette dessus. Et c'est vrai que c'est loin, quoi. Il y a 17 ans
C'est ça.
Moi, j'avais 10 ans, quoi. Ouais. Et du coup, non, c'est très, très loin. Et c'est vrai que quand tu te... Je sais plus de quoi on parlait.
J'avais pas 10 ans en 2002, je suis en train de calculer.
C'était passé.
Patrick, tu n'avais pas 10 ans en 2002.
Je ne sais plus.
Sinon, tu n'aurais jamais connu l'Amiga et ça aurait été un mensonge. Vrai.
Bon, chute. Je sais plus de quoi on parlait.
De Square qui sort des jeux, c'était toujours l'événement à l'époque.
Oui, c'est RPG, je crois.
Oui, le genre. Et c'est vrai que je m'y suis replongé, j'ai été agréable. Surpris, mais par le côté, justement, par le game design, la façon. Enfin, c'est du beat'em all avec une grosse composante RPG, évidemment, avec des menus, tout ça, mais c'est très fluide dans l'expérience. Ouais. Je trouve qu'il y a un vrai côté baston qui s'assume clairement, quoi, avec tous les bonus qu'on récupère, etc. En tout cas, on rentre facilement dans le gameplay, à l'inverse de l'aspect diégétique qui est complètement nébuleux. Moi, j'étais donc perdu. Alors, j'avais été un peu rassuré parce qu'il y avait eu l'annonce d'un patch explicatif. Le jeu a été patché avec une longue séquence d'introduction avec plusieurs petits films.
C'est ça.
Je sais pas, ça dure peut-être une demi-heure et tu regardes et t'es censé t'updater sur. Et je me suis senti. C'était un peu gênant en fait, j'ai rien compris. Je me suis dit, bon, c'est moi, je suis fatigué, ça va pas du tout. Et en fait, non, en regardant un peu sur le net, j'ai vu que j'étais pas seul et que c'est vrai que c'est très complexe l'histoire. Et finalement, moi, je l'ai abordé. Bon, je lance le jeu, je joue. Voilà, tant pis, je vais pas tout comprendre. Et je l'ai abordé comme ça. Et c'est vrai que tu prends ton plaisir de gameplay. Déjà, le gameplay, c'est ça qui fait l'expérience de jeu qui est vraiment très agréable. Il y a un petit côté PS2 parfois sur le show, certains mouvements qui sont un peu raides. Mais bon, évidemment, il y a une générosité. Et c'est ce que tu disais, il y a un côté rigolo, presque méta, dans ce côté, on a l'impression un peu de visiter des lieux de tournage de différents films. Alors, pas de films en l'occurrence, on a l'impression de se déplacer comme ça dans les plateaux de grandes productions Disney et de soi-même être dans un voyage comme ça. Alors, on ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants des rebondissements, parce qu'il y en a un tous les 3 minutes.
C'est vrai.
Moi, je captais pas forcément toujours tout, mais... Waouh, je trouve qu'il y a une générosité visuelle, en tout cas, c'est impressionnant, vraiment.
Je trouve que c'est un des...
C'est pas toujours parfait, mais c'est...
Oui, c'est ça, mais c'est en fait, j'ai l'impression que ça vient un peu de cette générosité. C'est une générosité un peu excessive qui déborde un petit
gâteau.
Peu.
Voilà,
c'est
ça. Un gros gâteau.
Et on sent que le jeu veut toujours nous donner des choses différentes, une nouvelle séquence avec un gameplay un peu différent et tout.
T'as pas trop le temps de t'embêter.
On s'ennuie pas, mais fatalement, il y a des choses qui sont... Enfin, chaque gameplay différent est pas excellent dans son domaine, quoi. Il y a un côté un petit peu... Voilà, on vous a donné plus de quantité que de qualité peut-être sur chaque élément précis, mais on ne peut pas enlever ce côté extrêmement généreux à la série dans son ensemble et en particulier à ce troisième épisode.
D'autant qu'il y a il y a plein de gameplay différents, enfin il y a plein de types de jeux différents.
Oui, c'est ça, complètement.
Jeux électroniques qu'on récupère, petits jeux.
C'est vrai, ça c'est dans le 3 en particulier. Et il y a, en fait, il y a un côté depuis le début. Kingdom Hearts file un peu la métaphore du parc d'attractions. C'est-à-dire que presque plus qu'une
niveaux,
adaptation de Disney, c'est presque une adaptation d'un Disneyland. Il paraît d'ailleurs que le mot Kingdom, à la base, était censé être le seul titre du jeu en référence à... Moi, je ne connais pas trop les parcs d'attractions, mais apparemment, aux États-Unis et tout ça, dans les parcs d'attractions traditionnels de Disney, c'est par exemple Pirate Kingdom. C'est l'appellation des différentes zones du parc.
Vu de l'extérieur, comme ça, on a l'impression que Disney est là pour fournir, on va dire, entre guillemets, les décors, les univers visuels, en tout cas, et que Final Fantasy est là pour fournir le fil rouge, un peu sauvetage de l'univers, sauver les cœurs, récupérer les cœurs, et tout ça. C'est un fil rouge Final Fantasy posé sur une série d'univers Disney, en fait.
C'est un peu, alors, plus littéralement, c'est un fil rouge à la Final Fantasy, dans le sens où il y a des personnages de Final Fantasy dans Kingdom Hearts. Alors, pas dans le 3. Dans le 3, il n'y en a plus, à part... un Mog, mais qui est un personnage récurrent, c'est un peu une mascotte de Final Fantasy plus qu'un personnage à part entière. Jusqu'ici, il y avait des personnages de Final Fantasy et qui, eux, ne participent pas tant que ça à la trame générale de Kingdom Hearts. Donc, c'est pour ça que c'est un scénario à la Final Fantasy parce qu'on retrouve exactement les mêmes
personnages. Il y a beaucoup de personnages qui évoquent des figures très classiques.
Et puis le dépassement de soi, l'importance des amis.
Ah non, pas l'accent.
Ah bah si, tu m'as poussé.
C'est le monomythe d'un bout à l'autre.
Voilà le monomythe.
mais qu'on aurait, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, que autant on est très engagé par le gameplay et par ce côté très généreux et très, très spectaculaire et accessible, autant on est complètement largué tout ce qui concerne le scénar et la narration, parce que c'est une série qui s'est, je pense honnêtement, je me considère comme vraiment un fan de la série, j'aime beaucoup, mais pour moi la narration de cette série est...
Elle est perdue.
Elle est indéfendable dans le sens où elle est perdue.
Et pourquoi faire aussi complexe ?
C'est une surcomplexification, c'est
ça. Alors finalement, c'est de l'expérience avant tout. C'est pour ça que moi, je l'ai aussi apprécié de mon point de vue de néophyte quasiment qui découvrait le jeu. T'as un vrai plaisir de découverte visuelle, d'ambiance. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir toute cette surcouche de...
Est-ce qu'ils l'ont justifié, ça ? C'est compliqué à comprendre quand même. tu proposes un truc en plus. Un jeu quand même. Super
Disney.
Bien fini. Alors, il peut avoir des défauts et tout ça, mais avec une générosité visuelle, avec quand même une fan base de Disney un petit peu énorme.
Monstrueuse. Colossale.
Et en même temps, avec un coup d'entrée narratif complètement insurmontable, c'est-à-dire d'avoir même jeu, tu disais, même si c'est que des détails, mais grosso modo, dans l'idéal, il faut même jouer avoir joué aux versions mobiles de Kingdom Hearts. Du coup, on comprend pas la logique. Surtout à une époque où on voit même des licences pas assez vieilles être complètement rebootées, du Tomb Raider, même du God of War, des trucs comme ça qui se rebootent pour justement enlever ce coup à l'entrée. En fait.
C'est exactement ça, c'est l'anti-reboot. C'est l'anti.
C'est les mecs qui restent
tendance
dessus,
actuelle, c'est ça.
Et qui entassent.
On assume. Complètement. Je n'ai pas d'autres exemples. Je me trompe très certainement, ça doit exister, mais j'ai pas d'autre exemple de saga dans le jeu vidéo aussi longue et aussi fournie. C'est-à-dire que tu parlais de Metal Gear tout à l'heure, effectivement Metal Gear, Kojima s'est amusé à repartir sur les premiers Metal Gear, mais un peu a posteriori tout ça, et il n'y a pas énormément d'épisodes. Kingdom Hearts, c'est ce que tu disais, c'est qu'on atteint quasiment une quinzaine de jeux sortis en comptant les rééditions
avec
et
beaucoup
tout.
D'interactions entre
avec beaucoup d'interactions et tout se suit, c'est une saga assez immense. Et c'est vrai que, alors particulièrement dans le 3, parce que c'est ce que tu disais aussi au tout début, il me semble, Patrick, que c'est un goulot d'étranglement.
En gros, il faudrait presque se préparer pour attaquer le 3, c'est-à-dire refaire la compile PS4 que j'ai pas eu le temps.
C'est ce que je voulais faire,
j'ai pas eu le temps. Peut-être choper le jeu 3DS aussi qui est sorti, qui est canonique aussi. Et qui est un jeu à part.
Alors maintenant, il y a une chose, on peut se réconforter, c'est un peu dur, mais on peut se réconforter avec l'idée que maintenant tout est disponible sur PS4.
Absolument tout.
À l'exception du jeu mobile qui en fait étant un jeu mobile qui continue à sortir, le scénario se développe encore.
Mais c'est important.
Même le jeu GBA.
Oui, parce que le jeu GBA avait été, c'est donc Chain of Memories, il avait été réédité sur PS2 et c'est cette version-là.
Est-ce que c'est vraiment important ? On en parlait un petit peu avant, je me dis, est-ce que c'était pas aussi un choix de dire, on sait peut-être qu'il y a la moitié des gens qui vont y jouer ne connaissent pas, et finalement, ça fait peut-être aussi partie d'une sorte d'aura du jeu, d'avoir une complexité comme ça.
C'est
frustrant.
Déjà, c'est une complexité de surface qui, pour moi, nuit à la série, vraiment, parce qu'à la base, son message... Et c'est vraiment... On le voit dans le 1, hein, refaire le 1 aujourd'hui, on découvre un scénar presque limpide par rapport au reste, qui est quasiment fini. Il y a juste une fin ouverte, mais qui est très classique de... Voilà, ça paraît tout à fait fini.
La proposition était simple, le mariage des deux univers.
La proposition est simple et n'est pas déconnante dans l'idée où, en partant de cette idée d'opposition, ombre et lumière, très classique, on va avoir un discours assez, qui est le même, encore une fois, c'est un peu le même discours qu'on entend partout, mais qui est assez adapté au public forcément un peu jeune qui va être confronté au jeu. C'était plutôt bien foutu. Et après, ça se perd, c'est Nomura qui se perd dans ses circonvolutions scénaristiques. Et
personne ne lui a dit.
Je pense que en partant, je pense que si, à mon avis, et d'ailleurs, tu parlais d'un jeu un peu méta. Le jeu est extrêmement méta, je pense, sur Nomura chez Square. Et c'est assez étonnant de jouer à ce jeu-là. Nomura donne l'impression d'y régler ses comptes. Parce que je ne veux pas en dire trop, mais Nomura, c'est une personne qui s'était retrouvée à la charge de Final Fantasy Versus 13, puis Final Fantasy 15, qui est le même jeu qui avait été renommé. On lui a retiré un peu ce projet. Il est probable que ce soit un peu de sa faute parce qu'il n'arrivait pas à le finir ce projet, mais quoi qu'il en soit, cet homme n'a pas l'air d'avoir digéré tout à fait ce genre de ce qui s'est passé. On avait déjà vu les jaquettes des compilations cash, donc 1.5, 2.5,
oui,
les
sur
titres
PS4,
sont toujours incroyables, étaient presque des références aussi au visuel de Versus 13 et de 15. Et là, dans le jeu, voilà, je veux pas en dire trop, mais il y a presque des séquences entières du jeu qui crient vraiment. Mais moi, je voulais le faire, mon FF15. Donc
le jeu, téléphone, les selfies, etc.
Ce qui est étonnant, c'est
le fait que, enfin,
j'y repense quand même là-dedans, mais on va pas s'éterniser parce que je pense qu'on a bien compris, mais que on est quand même Final Fantasy. C'est quand même la licence dans le jeu vidéo qui se reboot à chaque fois.
C'est vrai.
Systématiquement.
C'est quasi.
C'est ça, c'est-à-dire que l'exception à la règle a été le premier FF.
C'était 10-2.
Ça a été un tout
Et justement, ça la rend facile pour entrer.
C'est ça, bien sûr, tu peux attaquer facilement
un épisode.
On a les gens qui savent faire ça, qui en ont fait même une règle.
Et là, ils font l'inverse.
Et là, ils font le... C'est bizarre.
Sur une licence qui...
Je pense que c'est quelque chose qui s'est créé... la série s'est phagocytée elle-même avec ça. C'est quelque chose qui est devenu un peu hors de contrôle. Je pense pas que ça a été prévu comme ça dès le départ.
Je pense qu'on peut y jouer, même si on ne saisit pas tous les...
tout à fait raison de dire il faut y aller.
Foutu.
En disant que de toute façon, si on a tout suivi jusqu'ici, on
ne
comprend pas beaucoup plus, en fait, que si on n'y a pas joué. C'est tellement le bordel que... Foutu, allons-y.
Allons rencontrer Elsa, rencontrer Jack Sparrow.
Oui, c'est ça avant tout. Non, c'est un voyage.
C'est le principal intérêt, c'est de rencontrer les personnages Disney.
Oui, c'est ça.
Eh ben merci. Merci, Kevin.
Mais de rien. Désolé aussi, quelque part, je sais pas.
Non, mais pas du tout. C'était hyper cool. Alors, maintenant, il faut quand même faire le spoiler alert de base, parce que nous allons parler de Life is Strange 2, épisode 2, qui est sorti donc déjà il y a quelques semaines. Donc si vous êtes à jouer les épisodes tels qu'ils viennent, vous y avez joué, vous pouvez nous écouter, vous pouvez réagir aussi dans les forums de Science en Joue à ce qu'on va raconter. Si vous attendez la fin de la saison pour jouer à toute la saison, ça c'est aussi possible, il y a des gens qui préfèrent faire ça comme ça. Vous pouvez vous reporter à 2 minutes avant la fin de l'émission si vous voulez avoir nos recommandations de la semaine, mais pour le reste vous pouvez sauter cette partie. Nous allons parler de Life is Strange 2, épisode 2. This is your home now. Keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. We have to be extra careful out here. I should have known you were something I need. Focus. You can do this. Like a boss. I did it. Life is Strange 2, on va pas en parler aussi longuement que le premier épisode, on va pas faire 5 passages aussi longs dans Silence on Joue, mais c'est vrai, après ce premier épisode qui pour nous en tout cas a été une vraie réussite, limite un choc d'avoir comme ça su évoluer depuis le premier Life is Strange, il fallait quand même faire ce petit suivi, parce qu'il y a cet épisode 2 qui arrive.
Et c'est important, un épisode 2.
C'est très important parce qu'on bâtit
sur les promesses d'un premier épisode qui doit être réussi, de toute façon, évidemment. Mais là, il y avait une réussite sur l'épisode 1. L'épisode 2...
Et là en plus, on est non seulement sur un épisode 2 de Life is Strange 2, donc du premier épisode, mais on retrouve cet embranchement avec le Captain Spirit, les aventures de Captain Spirit, donc qui était sorti l'été dernier.
Ouais. Donc gratuit, vous pouvez le faire gratuitement.
C'était juste après le 3.
Une introduction à Life is Strange 2, gratuite. Et donc là, on voit le regroupement, en fait, voilà, les étoiles qui s'alignent. Et donc, on retrouve Daniel, enfin Sean Diaz et son petit frère Daniel, qui donc sont en fuite, hein, on le rappelle. C'est l'hiver, c'est pas cool. On les retrouve avec Daniel, donc, qui commence à essayer de maîtriser ce pouvoir qu'on a vu apparaître, qui a été un peu la découverte du premier épisode.
On n'est plus dans le tabou entre les frères là-dessus. On sent que... Voilà. Ils vivent avec, ils n'ont pas le choix. Ils sont partis.
On est sur une ellipse. Hein. On est clairement sur une ellipse. C'est-à-dire qu'on les avait laissés dans un motel au bord de la route. Et il y a une ellipse. Il y a une grande ellipse. Ils ont trouvé une maison. C'est près d'une rivière. C'est l'hiver. Il y a des bonhommes de neige par terre. Il y a le petit chien qui traîne. Et donc on les retrouve comme ça dans la survie, dans le road trip, à continuer leur road trip. Hein. Ils partent de Seattle avec l'objectif d'arriver au Mexique.
Et puis il y a la vraie question de la cellule familiale. Ils veulent retrouver quelque... Après le drame de l'épisode 1, dont on avait parlé à l'époque, de cette scène dramatique comme on en a rarement vu dans le jeu vidéo, je trouve vraiment que c'est un moment d'une force... crispante, et ils essaient de reconstruire. On sent que c'est une fuite en avant pour essayer de rebâtir quelque chose, tous les deux.
Alors, je ne sais pas comment tu as ressenti ça, Patrick, ni toi, Corentin, mais on est aussi sur un... On est sur un épisode, comment dire, on a un épisode plateau, je trouve.
Oui, non mais c'est ça.
On est sur un épisode plateau.
J'allais dire plat, mais plateau, ouais, ça marche aussi.
mais plateau dans le sens pas forcément plat, mais on consolide.
On prend le temps, ce qui est quasi... La relation des deux frères.
En fait, on est moins dans la fuite en avant qu'on était au début.
Voilà, c'est ça.
Il y a une halte au début, en tout cas. On va pas décortiquer tout l'épisode, mais...
En fait, cet épisode-là, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un poil déçu sur cet épisode 2 par rapport à l'épisode 1 qui, moi, m'avait vraiment, vraiment, vraiment plu. Mais après, bon, l'épisode 2 de la saison 1 m'avait vraiment déplu, donc je pense que c'est peut-être une habitude de la part d'Antonin. Mais du coup, cet épisode 2-là, je trouve manque de souffle un petit peu, justement parce qu'il cherche ces plateaux-là, alors qu'ils sont peut-être nécessaires. Peut-être c'est un mal pour un bien pour la suite de la saison, je dis pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, Enfin, j'aimais bien la fuite en avant du 1, quoi. J'aimais bien cet aspect de... on laisse derrière nous tout ce qui faisait notre vie, finalement, notre vie de jeune garçon dans un quartier populaire de... C'est quoi, Seattle ? Ils habitent à Seattle. Pour finalement se retrouver sur les routes et fuir une société qui ne veut pas de nous, quoi, grosso modo. Là, il y a deux grosses étapes, on va dire. Donc, il y a cette maison au tout début, puis ensuite, on peut le dire, c'est bon, on peut
Beaver
spoiler.
Beaver
Creek, donc la fameuse ville de Captain Spirit, où ils retrouvent la famille de leur mère qui les a abandonnés quand ils étaient petits, en fait. Du coup, le rythme est cassé.
Vu que tu n'y as pas joué, tu pleures parce qu'on est en train de spoil.
Il y a un point de vue bizarre, mais moi, j'ai aucun problème avec le spoil.
Il y
a une question que je me posais parce que vraiment, alors j'ai fait la première saison, j'ai fait aussi Before the Storm, mais j'ai pas du tout suivi le 2, Life is Strange 2. On sait sur combien d'épisodes ce sera en tout ?
Sur 5,
comme la première saison. D'accord.
Et a priori, c'est pas dans le même univers. Enfin, c'est dans le même univers, mais il n'y a pas de lien entre les histoires.
Parce que cette histoire d'épisode 2 un peu plat m'a rappelé Before the Storm un petit peu.
Et sur un
nombre d'épisodes un peu plus
sur
réduit.
Sur trois.
Ça fait un tiers de plat.
Moi, Before the Storm, je le mets vraiment derrière les autres en termes de rythme.
C'était pas l'équipe de base.
Il avait été externalisé chez un éditeur, enfin un studio américain. Alors, Oui, moi non, je trouve que c'est une vraie leçon. Une vraie leçon. Mais ce, alors moi, j'avais déjà dit tout le bien que j'avais pensé de Captain Spirit, qui est vraiment une séquence de jeu. C'est, vraiment, je t'invite à le faire.
C'est vraiment
une belle introduction au deuxième. Et pour moi, c'était une vraie bulle narrative. Pour moi, c'est un bijou. Ce mini-épisode, il avait une charge émotionnelle. C'est un petit miracle. Voilà, moi, je le dis. Voilà, quand on tient des bijoux comme ça, avec des fulgurances, et notamment, sans dire trop, il y avait ce final avec cette symbiose sur la musique et ce petit garçon qui volait. Pour moi, il y a eu un moment de magie dans ce moment-là précis. Il s'est passé un truc à l'écran. Chez moi, après, c'est très personnel aussi. Ce sont des expériences personnelles. Et je trouve que le fait de... C'est très fort ce qui se passe dans cet épisode 2, où on revit cette scène. Donc ce petit garçon qui imagine, parce qu'on l'a joué, on a été lui il y a quelques mois, on a cru qu'on avait ce pouvoir magique qui nous tombait dessus, où il se met à voler. Et là, on voit que pas du tout. Tu comprends que c'est pas du tout lui. Et tout, justement, toute l'histoire va jouer autour de ça, lui faire croire ou pas qu'il a un pouvoir. Ça paraît anodin comme ça, mais est-ce qu'on a déjà fait ça en jeu vidéo? D'avoir comme ça un jeu... Moi, ça m'a fait penser à Retour à le futur 2, où, je sais pas si vous vous rappelez, il y a des séquences où tu revois des scènes du premier d'un autre point de vue, et c'est... Le film vaut ce qu'il vaut, il est moins bon que l'original. Bon, après, on parle pas du 3. Mais c'était fascinant déjà comme objet, tu vois, l'objet qui regarde le précédent. Ouais. Et là, je trouve qu'on retrouve, on renoue avec cette fulgurance de revisiter à distance avec un autre point de vue.
Ouais, mais on parle de 3 secondes, là, fin, c'est vraiment le moment, en effet, à la fin
avec la force de l'interactivité, c'est-à-dire avec la force de l'identification.
Mais bien sûr, changes de point de vue.
C'est contrairement à un film où on a juste vu des acteurs dans une situation, on les revoit dans une autre situation.
Exactement.
Là, on est.
Tu les vis.
Et voilà, il y a un côté d'identification où cette double identification donne un effet assez surprenant.
Ce qui me fait dire que pour moi, je pense qu'il y a une vraie science du jeu d'aventure chez ces gens-là. Je pense qu'ils ont vraiment compris des choses. Moi, je l'ai senti. Comme tu dis, Corentin, c'est vrai que c'est un épisode plus calme. Il y a des vrais moments de... Mais alors moi,
Parce que leur vie est plus calme aussi.
Ce que j'ai ressenti, c'est fou. C'est que tu fais le bilan, combien de temps dure l'épisode. Il se passe pas. Moi, j'ai passé mon temps à serrer les dents devant ma partie. Je trouve qu'il y a une tension continue à chaque seconde. Pourtant, on n'est pas sur un actionneur, on n'est pas sur un jeu où il va se passer des... Moi, j'ai pas desserré les dents de toute la partie parce que...
Mais ça, je l'ai senti sur l'épisode 1, mais...
Vraiment pour tout l'épisode, je me dis qu'est-ce qui va leur tomber sur la fille, qu'est-ce qui va se passer.
Mais c'est là où ils
réussissent et ils ont réussi un truc. Et c'est pour ça que je parle d'une vraie science du jeu d'aventure parce qu'ils ont compris qu'on est sur une catégorie de jeu où justement il faut savoir ménager le tempo, il faut jouer avec le tempo. Le temps, ils l'ont complètement charcuté dans la première saison où on jouait nous-mêmes avec le temps. Donc finalement, on perdait ce côté de l'importance du temps qui file et des événements qui nous tombaient dessus parce qu'on avait cette pédale de rattrapage qui était dans le gameplay. Là, on n'a plus ça. Et je trouve que l'arrivée des événements fait que moi, j'étais en stress et avec une vraie tension comme rarement je l'ai dans un jeu narratif.
Ouais,
et la preuve, tu vois, je termine là-dessus, je suis en train de refaire le dernier Walking Dead, pas celui qui est en cours, le précédent, le 3. Il a des qualités. Je trouve qu'il a des très bons moments. Tu as des disparitions parfois de personnages que tu vois pas venir, ça te tombe dessus, ça te fait un choc. Mais t'as pas ça. T'as pas cette tension qui fait que tu... Il y a un truc, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une symbiose avec les personnages. Tu t'identifies, évidemment. Il y a ce jeu de rapport avec ce... Donc, même un personnage tiers comme Chris, le petit, tu le connais, tu l'as vécu, tu l'as joué. Donc, chaque protagoniste a vraiment...
Il n'obéit pas.
En quelques mots, il est dessiné. Il y a vraiment le père de Chris. On comprend un peu mieux. On avait fini comme l'épisode de Captain Spirit en disant, mais c'est qui ce type? Comment il se comporte avec ce gamin? Puis là, tu commences à mieux rentrer dans l'intimité. Tu vois bien que le gars, c'est pas simple pour lui. C'est un être humain. C'est très humain.
Je trouve que c'est un jeu qui passe son temps à désamorcer les effets qu'il essaie de mettre en place, en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, en effet, dans le 1, il y a cette espèce de fuite en avant. Moi, j'ai senti le stress de... on part pour l'inconnu parce qu'on n'a pas le choix.
C'est marrant, moi, je suis presque rassuré quand ils sont sur la route avancée. Moi, je trouve que les moments de calme sont plus inquiétants.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le 2, ils passent leur temps, narrativement parlant, le jeu passe son temps à placer des fusils de Tchekhov tellement évidents qu'on sait ce qui va se passer à l'avance. On sait où ça va coincer. On sait pourquoi la situation va se débloquer. Tu sais que ça va venir de la grand-mère. Tu sais que ça va venir de la grand-mère et qu'il va y avoir des problèmes avec la grand-mère sur un point particulier qui est annoncé dès le départ. Le grand-père te le dit d'ailleurs. Il te dit attention, ta grand-mère, elle est un petit peu chiante sur ce point-là. Oui, évidemment.
J'étais en stress. Mais quand ils sont arrivés chez les grands-parents, j'étais stressé pour eux. Mais je sais. Mais une tension. Tu te dis mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils leur veulent? En fait,
Et je trouve que le jeu désamorce aussi ce qui était cool dans Captain Spirit, qui était la petite incertitude à la fin de Captain Spirit, que je trouvais super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Captain Spirit, qui était de savoir, mais il a des pouvoirs ou pas, le gamin?
Bien sûr, c'était...
Et là, c'est un peu comme un magicien qui dévoile son secret de magie. Alors, c'est pas grave de connaître les secrets de magie, mais là, du coup, ça enlève un peu de la magie du truc.
Je suis pas d'accord.
C'est ça qui s'est passé.
La magie, on sent que le surnaturel, c'est pas ce qui est important dans cette histoire.
Moi, sincèrement, je me situerais peut-être plus du côté de Patrick là-dessus. Cet aspect plateau, je comprends ce que tu dis, c'est que le premier épisode, le thème émotionnel, entre guillemets, c'était l'urgence. C'était oui. Il y avait un truc comme ça où ça nous courait après. Ça nous attendait devant, c'est-à-dire que il fallait manger, il fallait s'en sortir, on savait pas où on allait, on était là. Et là où je dis c'est un épisode plateau, c'est que après avoir fait cette thématique émotionnelle sur l'urgence, il y a la thématique émotionnelle sur la construction du lien. C'est où le lien? Où est-ce que ça se situe le lien? Et il faut poser les personnages, il faut sortir de l'urgence. Je pense que l'urgence, on va très vite la retrouver.
On la retrouve dès la fin.
On la retrouve dès la fin.
Et on part sur la route.
Mais pour le coup, je trouve que il y a une tentative qui est, moi, j'ai trouvé très originale. J'en étais pas à serrer les dents.
C'est Walking Dead épisode 2, on est d'accord. C'est la même chose. Pareil, on trouve une maison. Ah, ça y est, on est au calme. On va retrouver. En fait, non, quelque chose se passe mal et on repart sur la route. C'est la même chose.
Mais c'est pas ça.
Je suis pas d'accord.
Moi, je m'arrête pas aux événements. Tu vois, c'est pas l'événement.
Et sincèrement, je dis pas que c'est mal, hein, mais je dis que c'est pas ultra original non plus, quoi.
Mais j'ai retrouvé aussi quelque chose qui m'a rappelé l'épisode 1 avec ce personnage assez extraordinaire. Je me rappelle plus de son nom, mais du voyageur.
Le geek, là, le journaliste.
Pareil, exactement.
Le voyageur au début.
L'ambiguïté.
L'ambiguïté ou le voyageur. T'étais tellement persuadé de tomber sur un pédophile qu'au moment où tu te rends compte que c'est un mec sympa, t'es là. What?
Je me rappelle de ce débat, ce qu'on avait pas eu là. Moi je fais oh il a l'air sympa et lui il fait oh c'est un pédophile.
Et là ils ont réussi à créer, mais grosso modo c'est quand même des gamins mexicains qui arrivent dans une famille où tu les suspectes très fortement d'avoir voté Trump et donc il y a cette tension politique qui se crée où t'es pas à ta place et c'est aussi
puis la petite ville oui surtout aussi, dites pas faut pas qu'on
voit il y a des questions comme ça qui se posent et finalement aussi ça se désamorce là-dessus parce qu'il y a la famille, parce que finalement Claire, la grand-mère, ok ouais bon relou mais pas bon,
en fait ce qui la rend un peu conservateur la rend aussi à des obligations de charité et non, dire c'est ma famille, je dois les accueillir, ils sont dans le besoin,
il y a une humanité, il y a l'humanité qui ressort des trucs. Bah oui, mais je suis désolé, on est dans un jeu d'aventure, un jeu vidéo, la mise en avant de l'humanité des personnages n'est pas forcément le truc le plus commun dans la création.
C'est quand même ces petits enfants. Enfin, ça serait quand même une sacrée garce.
T'as des doutes. Je pense que c'est assez bien écrit pour te laisser un doute sur ce qui va se passer.
Tu sais où va être le conflit finalement.
Et là, quand tu arrives chez ces gens, tu vois bien qu'il y a un malaise, il y a un truc qui te. Et en fait, moi, c'est ça qui me marque plus que. On voit bien qu'il y a. Je pense qu'il y a. Il y a certainement une volonté un peu de marcher sur les pas d'Incassable, tu vois, sur le super-héros du quotidien qui vit avec un pouvoir comme ça, comment il s'en... Mais à la limite, c'est même pas ça, moi, qui me... Tu vois, ça, on sent... C'est là, je pense que... évidemment, ça va évoluer. Là, ça a déjà beaucoup évolué sur deux épisodes, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me marque, c'est ça, c'est l'arrivée chez les grands-parents, comment ils vont se comporter, quelle réaction ils ont par rapport à ces deux gamins, l'historique qui est peu à peu... Tu vois, tu rentres dans la chambre de la fille et tu as toute la lecture de choses que tu peux ou ne pas faire. Et ça, c'est là où vraiment tu
t'imprègnes. T'es un peu obligé. Moi, je voulais sortir, je pouvais pas. On va se faire choper et tout. On est obligé de se faire choper. C'est insupportable. Viens, on sort, on va se faire choper. Évidemment, on se fait choper parce que le jeu te force à rester dans la chambre.
Oui, mais moi, tu vois, j'étais très mal à l'aise. C'est le moment où tu finis par te dire, il faut qu'on y aille. Tu sens que t'es obligé d'y aller. T'es super mal à l'aise en ce moment. Et pareil, c'est assez angoissant ce moment où tu vas justement dans l'interdit. Tu vas aller te renseigner parce que tu veux le savoir. T'es obligé. Tu te mets dans la tête de ces gamins, t'as envie de savoir.
Ah, puis
et toi, en tant que joueur, t'es un peu embarqué avec eux. Enfin, je trouve que t'es presque un troisième personnage de ce duo.
Ah, mais t'es complètement un troisième personnage.
Et c'est ça qui est fascinant.
Je suis toujours un peu embêté avec les Life is Strange et avec le Life is Strange de manière générale. C'est toujours ces listes de courses à faire. Enfin, ces listes de tâches à faire de manière générale où tu cherches pendant 3 ans où est le linge sale, où est le machin. Non, mais c'est finalement un peu embêtant parce que je sais, parce que je suis vraiment embêté parce que je sais pas comment, par quoi remplacer ça. Après, c'est le boulot d'un game designer de trouver une solution à ce genre de problème. Mais c'est vrai que dans Life is Strange, on a toujours l'impression d'être guidé par une liste de petites tâches à faire. Trouve une gourde, mets de l'eau dans la gourde, mets la gourde dans le sac, trouve le sac, joue avec ça, joue avec
ça. C'est pas ça qui est intéressant. Oui,
mais je trouve qu'il contourne très bien le truc. Je trouve pas ça envahissant en fait. Je trouve que c'est un peu comme dans le cinéma par exemple où pour créer de l'empathie. Il va y avoir une technique de cadrage, une technique comme
des
ça
codes,
qui va
des codes,
des codes de cinéma qui vont finir par le fait que tu crées de l'empathie avec un personnage où normalement en tant qu'être humain t'as pas d'empathie avec ce type de personnage, sauf que le réalisateur va réussir à créer le cadre pour que tu sentes le lien, et je trouve que ça ils s'en servent là-dessus.
Ils peuvent pas te laisser en open world faire ce que tu veux.
Non, mais je sais, mais il y a peut-être des moyens,
je suis
peut-être
d'accord,
plus...
mais c'est passage de tête. Toi, en tant que joueur, tu vas choisir d'aller tout lire ou pas du tout. T'as aussi une marge de manœuvre où là, c'est toi aussi qui est ou dans le roleplay ou pas du tout.
Juste dernier point, enfin on va pas trop s'éterniser, je pense qu'on a déjà... Mais je repensais à ce que t'avais dit sur sur la démarche la teinte émotionnelle, je trouve, de l'épisode. Moi, ce qui m'a surpris a posteriori, quand j'ai fini l'épisode, c'est ma relation avec Daniel. Et j'ai trouvé que ma relation avec Daniel n'était pas du tout la même, n'avait pas du tout été la même que dans le premier épisode. Où le premier épisode, j'étais un peu submergé par cet état d'urgence, un peu continu, où je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas.
Tu n'avais plus de message à lui passer, en fait, tu étais dans l'urgence.
Hein. Et je lui disais oui, mais non, mais oui.
En panique, quoi.
Et là. Il y a aussi cette installation du rôle de grand frère qui est vraiment construite, parce que je me suis rendu compte à la fin de l'épisode que j'ai vraiment joué le grand frère. J'ai vraiment pris ce rôle
avec ce
choix, parce que on n'est pas dans Détroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 800 milliards de branches narratives des fins différentes et tout ça.
Mais t'hésites, hein.
Mais il y a des choix, et les choix, c'est quel grand frère tu vas être.
Dans l'urgence, il faut surtout cacher la vérité un peu à Daniel, qui est il faut pas les paniquer, parce que non tout va bien, on part en vacances, c'est super, tout va bien. Et dans le deuxième épisode, c'est faut pas qu'on se fasse choper, arrête tes bêtises, on est dans l'éducation presque.
Moi j'ai choisi par exemple de pas être super strict.
Ouais, je sais, mais
il y a ça, puis le rapport à Chris aussi, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas, est-ce qu'on le laisse
pour le coup je trouve que mes choix, mais après c'est toujours le problème avec les jeux narratifs, ça c'est un problème général, mais je trouve que mes choix n'ont pas été ultra bien retranscrits au final. Enfin, tu vois, j'ai eu une conséquence qui était en mode ouais, bah écoute, moi j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, ça, donc c'est un peu de sa faute aussi. Enfin, tu vois, moi j'étais en mode débrouille-toi, Daniel, tu m'énerves. Enfin, vraiment, tu vois, faut pas que j'ai de gamin, je crois.
Faut les prévenir, quoi.
Faut les prévenir avant.
Bah, écoute, il a sabordé la fille Strange.
Écoute, je t'ai dit quand même de faire attention là, t'as pas été prudent.
Regarde, c'est sauvé. Alors,
comme d'habitude, on n'a pas de date pour le 3.
Ça sera annoncé quelques semaines avant, comme d'habitude. En général, c'est toutes les 6 semaines à peu près, tous les 2 mois.
C'est le temps.
Ouais, non. Ah non, mais alors là on n'est pas d'accord. Si. Moi, le plus gros défaut de ce Life is Strange 2, c'est franchement, j'ai trouvé très, très, très tardif. Franchement, j'attendais décembre cet épisode. Je trouve qu'il est venu hyper tard.
Je suis comme Patrick, qui prennent le temps. C'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de presser. Il y a pas de plot twist.
Miyamoto qui dirait un mauvais jeu.
De toute façon, on sait. De toute façon, épisode 3, premier signe de Seth Mandé de la part de Daniel, parce qu'on voit que son pouvoir lui fait du mal. Épisode 4, premier signe de la mère qu'on va retrouver. Épisode 5, retrouver avec la mère, qu'on comprendra pourquoi elle est partie. Je vous le dis, les fusils de Tchekhov sont disséminés comme les petits cailloux dans le petit pousset.
Tu seras sûr.
On verra, peut-être que j'espère avoir tort.
Merci à tous les trois pour cet épisode. Merci Kevin d'être venu.
Merci pour l'invitation, encore une fois.
Tu reviendras.
Avec plaisir. Ouais.
Pour Kingdom Hearts 4.
Kingdom Hearts 4.
Non, pardon, 3.2.
Le reboot, le 4 qui sera un reboot en fait, qui va partir à zéro. 0.
C'est un point important qu'on n'a pas mentionné du tout. Beaucoup de gens, je le dis très vite fait, beaucoup de gens considéraient le 3 comme la fin. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais censé être la fin de
c'est
Kingdom Hearts.
Ah, c'est, non, pas
c'est la fin d'un arc scénaristique. Mmh, mais oh il a toujours God. Été clair.
En fait, c'est une intro, tout ça.
C'est pas la, quasiment. Non, mais c'est quasiment. C'est pas la fin de la quête de Sora, etc.
De toute façon, Kingdom Hearts s'arrêtera avec la mort thermique de l'univers, je pense. Hein,
c'est
pas
quelque
avant.
Chose comme ça.
Même là, ça. Même là, ça sera compliqué. Ouais.
On aura
même
d'autres occasions voilà. de se revoir, même si ce n'est que pour Kingdom Hearts. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi.
On trouvera d'autres occasions quand même. La question rituelle, je t'avais pas prévenu, mais du coup, voilà. La question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi rapidement, parce qu'on a quand même pris le temps. Patrick.
Moi, j'ai vu un film au cinéma, donc un endroit où on se rend pour ce genre de choses. Ça s'appelle Arctic, et c'est un survival avec Mads Mikkelsen, donc le fameux acteur. Très, très bon, très bonne surprise. Ça dure 1h30, donc plutôt ramassé. Aujourd'hui, on n'est plus forcément sur ces formats de films. Moi, j'ai bien aimé. C'est du survival sec. Il y a très peu de paroles. C'est vraiment, l'acteur tient le rôle. Enfin, c'est lui, quoi. Il est filmé en gros plan pendant tout le film. Beaucoup d'émotions qui passent avec finalement très peu de paroles. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'est pas dans les esbroufes hollywoodiennes. Tout simple, hein. Le mec, donc, il est paumé en Arctique avec un accident d'avion. On ne voit pas l'accident d'avion. On se réveille avec lui. Il est en galère à survivre comme il peut. Voilà, une expérience survie.
C'est The Forest, en fait.
C'est vrai que j'étais en plein dedans, en plus. C'est
un peu moins... dans le survival.
Bon, il est un peu plus serein, quand même. Mais bon, il y a des dangers, il y a des bêtes. Mais vraiment, c'est sec. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. C'est viscéral, voilà.
Corentin.
J'ai enfin fini Katana Gatari. J'ai mis 6 mois à le finir, ce qui est en fait que la moitié de l'expérience totale, puisque la série avait été diffusée au Japon. Je vais y arriver. Erwan, ne me regarde pas avec ses yeux de Merlot Free. Puisque la série avait été diffusée sur un an entier. Katana Gatari, c'est un animé qui a été diffusé en 2010. Ça raconte l'histoire de Yasuri et de Togame qui parcourent le Japon pour retrouver 12 sabres légendaires, les sabres parfaits. Sachant que Yasuri, il ne se bat pas avec un sabre, c'est lui-même un sabre, car en fait, il a un art martial. Voilà, il est lui-même considéré comme un sabre. Il est bon que c'est un sabre, le monsieur.
Il est en forme de clé ou pas?
Parce que non.
C'est une clépée?
C'est pas une clépée. Je l'ai fini, j'en ai déjà parlé ici dans Silence on Joue.
Mais oui, c'est ça
ouais,
dit quelque chose.
Mais j'ai seulement fini.
Le mec en forme de sabre, bizarrement, ça
non, il est pas en forme de sabre, il maîtrise un art martial, tu vois. Ah oui, mais c'est important. Et la fin est triste, sa mère, oh là là, mais je m'attendais pas à ça, mais c'est beau aussi, donc je recommande à quiconque. C'est plus sur Netflix, c'est-à-dire quand j'en ai parlé, c'était sur Netflix. En plein milieu de la saison, j'étais en train de regarder, ils me l'ont retiré de Netflix, c'est Saligo. Heureusement, il se trouve que je vais le à la maison, donc tant mieux, et j'ai pu le mater la fin. Je recommande vraiment Katana Gatari, c'est très lent, c'est par à la base, c'est l'auteur de la série des Monogatari, donc c'est beaucoup de blablabla.
C'est lié à tout ça ou pas?
Non, aucun rapport, j'imagine aucun rapport. Okay. Mais oui, ça parle beaucoup, mais c'est un peu un western finalement dans l'idée, hein. ça, voilà, il y a une tension, et je recommande, donc voilà, il y a Erwan qui fait des grands gestes.
Pas du tout. On est à la radio, je ne fais pas de gestes, je ne suis qu'une voix.
Désincarné.
Kevin.
Alors moi, je suis allé aussi dans cet endroit qu'on appelle le cinéma pour voir des films. Ouais. C'est très étrange.
Ouais, bizarre.
Alors moi, je ne vais pas conseiller le film que j'ai vu, parce que le film que j'ai vu, c'est Alita Battle Angel. Je pourrais pas trop le conseiller. Par contre, j'aime. Enfin bon, je suis trop un fan de l'œuvre originale pour avoir été convaincu par ce film. Je pense que c'est un film qui est pas très mauvais, mais qui est pas forcément une superbe adaptation. J'aimerais conseiller le manga en fait, dont est issu ce film. Je pense que c'est, si ça peut mettre un peu le manga en lumière, c'est très très bien. Donc le manga original s'appelle Gun, mais il ne s'appelle pas Battle Angel Alita, qui est le titre américain de la série. En France, on a conservé le titre japonais.
Donc on dit Gun ou Gunem?
C'est bizarre.
Parce que moi, japonais, je prends des leçons, hein, tu vois, je pose la question.
En phonétique.
En japonais, ce serait Ganmu.
Moi, mais je l'ai appelé Gunem tout le temps.
D'accord, oui. Non, mais ouais, moi, j'avais toujours dit Gun, mais c'est. En japonais, ce serait Ganmu. Il y a une sorte de jeu de mots, ça fait un peu genre machine qui rêve avec les kanji utilisés, mais il y a le mot de Gun, effectivement, dedans qui est évident. Et voilà, j'aimerais vraiment, si ça peut donner à des gens envie de lire ce manga que je trouve magistral, alors qu'il y a un manga très dur, hein. Par contre c'est du ce qu'on appelle du seinen, donc c'est adressé à un public adulte, c'est cyberpunk en diable, et ça pose énormément de questions sur l'humain, sur ce qu'on est, sur le rapport au corps, à l'esprit, etc. C'est merveilleux, je trouve. Voilà.
Allez, puisqu'on est dans le cinéma, et ben moi j'ai été voir Minuscule 2. Bah oui, j'ai des enfants, hein, donc mais c'est vachement bien. J'adore Minuscule parce que Minuscule c'est quand même une série de ouf où on suit les aventures d'une coccinelle, d'une mouche. mouche, d'une abeille, d'une fourmi, d'un escargot et de tout ce genre de petites bestioles. Et donc, il y avait eu un premier long métrage qui était assez exceptionnel parce que normalement, à la télévision, c'est des petites séquences de 2-3 minutes. Et il y avait eu un premier long métrage donc, qui racontait une longue histoire. Et là, c'est minuscule 2. L'histoire,
c'est canonique
c'est...
ou pas alors,
alors, ouais, non, mais c'est... non, parce que c'est. Alors, est-ce que c'est les mêmes personnages? Est-ce que c'est pas les mêmes personnages? Bon, ah, c'est une question. En fait, bon, grosso modo, l'histoire, c'est une petite coccinelle qui se retrouve embarquée dans un colis de. Qui est sur sa petite montagne des pas des Cévennes mais de du Vercors et qui se retrouve embarqué dans un carton d'expédition pour la Guadeloupe
et donc mauvais bail
et donc elle découvre comme ça tout un univers des nouvelles coccinelles des nouveaux animaux et tout ça c'est très drôle c'est vraiment super bien fait la réelle est incroyable en tout cas avec les enfants ça marche super voilà minuscule 2 je crois que c'est à
3D pas 3D non c'est fini si
non pas
pour les enfants c'est
non,
pas
3D. Non, okay. Pas 3D. En tout cas, chez moi, pas 3D. Merci. Merci, Solène, pour avoir réalisé cet épisode. Et puis, merci à tous. Et nous, on se retrouve... on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Hein, parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. On va avoir tellement de jeux en retard, je vous raconte
pas. C'est vrai qu'on a une petite liste.
Ah ouais, non, là, ça commence vraiment à s'entasser. Donc, on va en expédier quelques-uns quand même à notre retour. Donc, on se retrouve dans 2 semaines sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.